En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, lors de la séance du lundi 10 décembre 2012 à l'Académie des sciences morales et politiques, le juriste Serge Sûr, spécialiste du droit international, a donné une communication pour traiter de la question du devenir de la souveraineté des États. Entré grâce à Canal Academy dans la salle des séances, vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bastide-Bruguière, qui présente en le résumant le parcours de Serge Sûr, puis ce dernier qui a intitulé sa communication « Vers un effacement de la souveraineté des États ?»
Pour terminer l'année, je souhaitais que notre réflexion aborde quelques questions plus générales que pose l'évolution de la mondialisation et le règlement des problèmes désormais très largement partagés qu'elle pose aux sociétés de toute la planète. L'une de ces questions, souvent évoquée, est celle du devenir de la souveraineté des États, du pouvoir qui reste encore entre les mains des États-nations, du rôle réel, actuel et futur, de ces États-nations dans l'organisation et la gestion de la vie mondiale. Je remercie très vivement M. Serge Sûr d'avoir accepté le défi et de venir nous entretenir sous la forme d'une question vers un effacement de la souveraineté des États, de cette interrogation sur ce qu'il reste réellement entre les mains des différents pouvoirs, des pouvoirs d'État à travers le monde. Notre compagnie connaît bien M. Serge Sûr. Aussi, je rappellerai simplement qu'il est professeur émérite à l'Université de Paris 2, spécialiste de droit international et de l'étude des relations internationales. Il a été pendant 10 ans, de 1986 à 1996, directeur adjoint de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. Et à ce titre, il a dirigé, écrit de nombreux rapports sur les questions de désarmement d'un point de vue international. De 2009 à 2012, il a siégé comme juge ad hoc à la Cour internationale de justice à La Haye dans une affaire opposant la Belgique et le Sénégal. Il a donc une expérience personnelle de la justice internationale. Il a créé et dirigé à Paris 2 le Master de relations internationales. Il y a créé aussi le Centre Thucydide d'analyse et recherche en relations internationales, la publication intitulée « L'annuaire français de relations internationales » et la revue « Questions internationales » qui s'est imposée assez largement dans les milieux français comme une revue de pointe dans le domaine des questions internationales. Cette année, il était chargé à l'Académie de droit international de La Haye, que notre Académie a primée par une récompense cette année même. Il était chargé d'un cours sur la créativité du droit international. Il est l'auteur de très nombreux livres et de nombreux articles de revue que je m'abstiens de citer et je veux plutôt lui laisser le temps pour son exposé. Monsieur Sûr, nous sommes heureux de vous écouter. La parole est à vous.
Merci beaucoup, Madame le Président. Merci et permettez-moi de vous exprimer ma reconnaissance pour me permettre de m'exprimer devant votre assemblée. Reconnaissance qui est matinée d'un peu de crainte parce que je parle devant des juristes éminents, devant et sous le contrôle de juristes éminents. Et je parle sur un sujet immense qui conduit à s'interroger sur le sens des dynamiques internationales contemporaines, mondialisation, interdépendance croissante des sociétés, crises économiques et financières, conflits apparemment insolubles, perte de maîtrise des États sur les problèmes internationaux, voire sur eux-mêmes, tout ce qui semble constituer le pain quotidien des relations internationales. Alors, si j'en arrive à la question qui nous retient, elle comporte 3 termes, un effacement, la souveraineté, les États. Ces 3 termes se ramènent, à vrai dire, à 2, parce que souveraineté et État sont indissociables et qu'il n'est pas possible, dans le contexte juridique, historique et politique qui est le nôtre, de penser l'État sans la souveraineté, ni la souveraineté sans l'État. Tous les États sont souverains, et il n'existe pas de souveraineté en dehors de l'État. Quant à un effacement, le mot n'est sans doute pas choisi au hasard. Il évoque physiquement les gommes, chères à Alain Robbe-Grillet, et métaphoriquement une disparition progressive, un processus d'abolition de ce qui existait. Peut-être pour le dépasser, peut-être pour le renouveler, mais si on se limite à la dimension négative du processus, une absence, une perte. Vers un effacement, la formule implique une dynamique, un mouvement, même régressif, même involutif, mais peut-être aussi une tendance cyclique, puisque un effacement n'est pas l'effacement, qu'il peut être provisoire, qu'il peut être conjoncturel. Alors avant toute chose, je crois qu'il est indispensable de préciser ce que l'on entend par souveraineté, puisque la souveraineté est au cœur de la question. On pourra ensuite observer que la souveraineté des États est aujourd'hui soumise à diverses tribulations, souvent spectaculaires et parfois dangereuses. Il est également exact que, plus profondément, elle connaît un processus de transformation, et ce processus, à la différence du précédent, il ne la remet pas véritablement en cause, il ne conduit pas à son effacement. Il modifie plutôt ses conditions d'exercice, et en définitive, il la protège. Voilà donc les trois séries de remarques que je voudrais développer un peu devant vous. D'abord, qu'est-ce que la souveraineté? Ensuite, les tribulations actuelles de la souveraineté. Et enfin, les transformations que l'on peut envisager de la souveraineté. D'abord, qu'est-ce que la souveraineté? Eh bien, c'est une notion qui appelle quelques précisions. Et ici, je les ferai plutôt en tant que juriste. Ce sont des précisions qui ne sont pas seulement terminologiques, mais qui plus profondément sont conceptuelles. On entend en effet souvent parler, même par la bouche des autorités les plus autorisées, de partage de souveraineté, de transfert de souveraineté, de dépossession de la souveraineté, d'un monde sans souveraineté. Alors, je le dis avec peut-être un peu de pédantisme et même d'arrogance, pour un juriste, il y a là une confusion totale. Parce que la souveraineté, telle qu'elle a été conçue dès l'origine, comme pouvoir suprême, indépendant, comme liberté d'action et d'engagement, et comme ne pouvant être engagée que par elle-même, est par définition complète, intangible, inaltérable. En revanche, et là sans doute réside l'origine de la confusion, il faut distinguer la souveraineté des compétences, qui en sont la démultiplication, la matérialisation, en quelque sorte le corps juridique dont elle est l'âme. Ces compétences peuvent parfaitement être déléguées, exercé en commun avec d'autres, voire limité, ainsi en matière de recours à la force armée dans les relations internationales, sans que la souveraineté soit en rien atteinte dans son principe. La souveraineté, suivant une formule classique, demeure la compétence de la compétence. Alors ces compétences, quelles sont-elles? Eh bien, elles sont indéfinies, puisque, par définition, il appartient à l'État souverain de les distinguer, de les régler pour lui-même. Et j'en donnerai ici quelques exemples en vrac, sans du tout prétendre à un examen exhaustif ou à une typologie. C'est l'organisation des pouvoirs et des services publics, c'est la maîtrise du territoire et de ses ressources, c'est l'attribution de la nationalité, la compétence pénale, la compétence fiscale, budgétaire, la compétence pour conclure des traités internationaux, et de façon générale, la maîtrise de son ordre juridique et la compétence pour régir et réglementer les activités qui sont menées sur son territoire. Le fait d'exercer des compétences en commun, de les subordonner, le cas échéant, à des décisions internationales, n'affecte en rien la souveraineté, puisque ces décisions reposent toujours sur une acceptation préalable de l'État concerné. C'est ainsi que, dans son premier arrêt, rendu en 1923, la Cour permanente de justice internationale, nouvellement instituée, a justement observé qu'il ne fallait pas voir, dans la conclusion d'un traité, un abandon de la souveraineté de l'État, mais tout au contraire un exercice de cette souveraineté. En d'autres termes, ce n'est pas en dépit d'un engagement international qu'un État reste souverain, c'est parce qu'il est souverain qu'il peut prendre un engagement international. Et en prenant un engagement de cette nature, l'État ne renonce ni à en prendre d'autres, ni à modifier, voire dans certaines circonstances, à révoquer ce qu'il a pris. Alors pour résumer le sens du mot, il me semble que c'est Jean-Jacques Rousseau qui l'a le mieux exprimé en écrivant que, par cela même qu'il est, le souverain est toujours tout ce qu'il doit être. La souveraineté ne se coupe pas en morceaux, Elle ne se divise pas, elle ne se partage pas, elle ne se transfère pas, elle ne se délègue pas. Elle est ou elle n'est pas. Mais si elle n'est pas, il n'y a pas non plus d'État. Il ne reste que des entités plus ou moins autonomes et plus ou moins subordonnées. Alors, est-ce la situation que nous connaissons ? Est-ce que c'est le mouvement qui entraîne les États dans une dépendance juridiquement organisée qui dissoudrait leur souveraineté ? C'est là une autre formulation de la question que nous examinons. Mais avant d'y venir plus concrètement, je crois qu'il faut encore apporter deux précisions qui, cette fois, sont plus terminologiques. La première consiste à distinguer la souveraineté du souverainisme. La souveraineté, c'est un concept, c'est un principe de droit positif qui caractérise les presque 200 États qui composent actuellement la société internationale. Le souverainisme, c'est une idéologie juridique et politique, mais plus politique que juridique. Cette idéologie considère que l'État doit conserver le monopole de l'exercice des compétences qui découlent de sa souveraineté et se refuser à les exercer de concert, voire à prendre des engagements internationaux. Les États souverainistes à l'heure actuelle, les États en tout cas qui ont une politique d'inspiration souverainiste à l'heure actuelle, ce sont par exemple les États-Unis ou la Chine, voire d'autres États du BRICS. Et tous ces États seraient extrêmement surpris si on leur disait que leur souveraineté est en voie d'effacement. La deuxième précision repose sur la distinction entre l'aspect interne et l'aspect international de la souveraineté. Et ce qui nous intéresse ici, c'est avant tout l'aspect international, même s'il s'agit de deux visages de la même souveraineté. Sur le plan interne, la souveraineté est unique et singulière. C'est la suprema potestas. Elle est à l'articulation du politique et du juridique, puisqu'elle repose sur un principe de légitimité qui fonde une organisation juridique de type hiérarchique. Hiérarchique, puisque les actes juridiques qui en découlent sont unilatéraux et autoritaires, et que leur autorité est garantie par la force publique de l'État. Maintenant, sur le plan international, tout au contraire, la souveraineté est multiple, autant de souveraineté que d'État, et d'États juridiquement égaux entre eux, puisqu'également souverains. De sorte que la logique de leur relation n'est plus verticale, mais horizontale, contractuelle ou consensuelle, et non unilatérale et autoritaire. D'où une différence radicale de nature entre droit international et droit interne, même si la souveraineté est à l'articulation de chacun de ces deux volets dans leur relation mutuelle. Alors on pourrait considérer ces définitions et précisions comme bien formalistes et bien théoriques face aux données immédiates de la conscience internationale. Des États souvent affaiblis, radicalement inégaux entre eux, donnant le sentiment qu'ils perdent la maîtrise non seulement des affaires internationales, mais en plus d'eux-mêmes, qu'ils sont ballottés par des dynamiques extérieures et incapables de surmonter leurs défis intérieurs, affrontés à la concurrence d'acteurs non étatiques qui les débordent de toutes parts. Ces dynamiques extérieures, elles sont pour nombre d'entre elles de l'ordre du fait et non du droit. Et on retrouve ici une confrontation nécessaire entre l'opposition entre le droit et le fait, qui n'est pas une opposition entre l'apparence et la réalité, le droit étant l'apparence et les faits la réalité. En réalité, c'est l'opposition entre deux ordres de réalité, puisque le droit comporte lui-même son ordre de réalité. Alors je crois qu'il serait vain de nier cette opposition et qu'il serait futile de la considérer comme ne posant pas aujourd'hui problème. Elle engendre pour la souveraineté diverses tribulations et elle contribue à sa transformation, ou plus exactement à ses transformations, parce que elles ne vont pas nécessairement dans le même sens. C'est ce que je vais maintenant essayer d'illustrer en m'attachant d'abord aux tribulations de la souveraineté. Alors au-delà de la dogmatique juridique que je viens d'essayer de résumer, je crois qu'on peut observer que la souveraineté est attaquée de trois manières différentes, trois manières qui ne sont pas nécessairement cohérentes, mais qui convergent dans l'approche critique ou négative de la souveraineté. La première, elle est d'ordre factuel, c'est le développement et une certaine forme de reconnaissance des acteurs non étatiques. La deuxième est d'ordre juridique, c'est la concurrence croissante entre les systèmes juridiques qui conduit à l'imprégnation de certains d'entre eux par des normes d'origine étrangère. La troisième est d'ordre idéologique, c'est la thématique des droits de l'homme, comme supérieure à tout, c'est l'idéologie juridique des droits de l'homme, comme supérieure à tout, y compris à la souveraineté des États. Et je vais maintenant essayer de résumer, sans bien sûr pouvoir approfondir, quelques éléments essentiels de ces trois dynamiques. D'abord, la montée des acteurs non étatiques. Le terme, l'expression d'acteurs non étatiques, c'est une expression bien sûr familière, mais elle a été officialisée depuis maintenant une dizaine d'années par le Conseil de sécurité, qui les a visés spécifiquement dans certaines résolutions. Alors, en principe, ces acteurs ne sont pas sujets de droit international. Ils n'ont pas de personnalité juridique internationale. Donc, ils se situent sur un terrain qui est tout à fait différent de celui des États. Mais ils peuvent être visés par des normes internationales qui en font l'objet d'obligations. Les obligations ne pèsent pas directement sur eux, mais elles pèsent sur eux par l'entremise des États, par les compétences qu'ils attribuent aux États à leur égard. C'est le cas avec la répression des individus par les juridictions pénales internationales, lorsqu'ils sont poursuivis pour des crimes contre l'humanité et plus généralement par des crimes internationalement définis. Et, bon, je n'entre pas dans cette discussion, mais on sait que cette répression, elle est plus spectaculaire qu'efficace. Plus largement, le terme d'acteur non étatique constitue un fourre-tout qui mêle les individus, les groupes, les institutions privées. Et sur jugement de valeur, on va y trouver aussi bien des ONG militantes, des firmes transnationales, des groupes terroristes, certains think tanks, les sociétés militaires privées, j'emploie ce terme entre guillemets parce qu'il a quelque chose d'un peu oxymore, les mouvements de libération ou de contestation politique. Et puis des individus même. Et là, on peut mentionner, mais évidemment, on ne les mettra pas sur le même plan, Ben Laden, ou encore Ted Turner ou Bill Gates, qui sont indiscutablement ou qui ont été des puissances internationales. Les deux derniers surtout, et pas seulement pour leur participation à des actions humanitaires internationales. Alors chacune de ces sous-catégories, on voit bien en quoi il s'agit d'un fourre-tout, les ANE, chacune de ces catégories comporte ses propres subdivisions. Et la réalité de leur activité comme de leur influence est très variable. Il n'en demeure pas moins qu'ils représentent un défi pour les États, soit qu'ils cherchent à orienter leur politique, soit parce qu'ils les contestent. Nous retrouvons ici la mondialisation parce que ce sont à la fois des acteurs et des sous-produits de la mondialisation, comme des résistances qu'elle provoque ou des redistributions de puissance qu'elle entraîne. Et on ne peut pas y voir entièrement une société internationale alternative, parce que ces acteurs non étatiques sont conduits à s'opposer dans leur action. Par exemple, les altermondialistes, les ONG altermondialistes, vont protester contre les firmes transnationales, des sociétés militaires privées ou des sociétés de sécurité privées vont combattre des groupes terroristes, donc c'est un conflit entre ANE, des mécènes privés, souvent américains, vont concurrencer dans le domaine de la santé publique ou dans le domaine de l'action humanitaire, les institutions publiques officielles et les organisations non gouvernementales vont parfois se substituer sur le terrain aux institutions internationales humanitaires. On peut donc dire qu'on a affaire à un choc de lobby, et je ne donne pas de caractère péjoratif à ce terme de lobby, c'est une donnée de fait, de lobby contradictoire, voire conflictuel, qui viennent concurrencer les régulations interétatiques ou les actions institutionnelles, voire les contrebattre, voire s'imposer à elles. Et on connaît par exemple les conditions dans lesquelles ont été conduites il y a quelques années certaines grandes négociations multilatérales, comme celle qui a mené à la création de la Cour pénale internationale par le statut de Rome en 1998, et où les ONG ont joué un rôle tout à fait important, ou encore un an auparavant pour la Convention d'Ottawa sur l'interdiction et l'élimination des mines antipersonnelles. Alors, ces lobbies, quelle que soit leur orientation, quel que soit le bien ou le mal que l'on puisse penser d'eux, ces lobbies ont une caractéristique commune qui est d'affaiblir non seulement la maîtrise des États sur les relations internationales, mais aussi la distinction entre espace public et espace privé, puisqu'elles agissent dans un registre qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, qui n'est à proprement parler ni l'espace public ni l'espace privé, mais qui les mélange et qui les télescope. Or, la distinction du public et du privé, c'est une des conséquences importantes sur le plan juridique de la souveraineté. Ce qui résulte de cette promotion des acteurs non étatiques, c'est un risque de féodalisation des relations internationales qui est en corrélation avec une érosion de fait de la souveraineté. Le monopole des États sur la régulation et sur l'action internationale en est ainsi affaibli. Alors on serait tenté de dire que cette participation des acteurs non étatiques à la gouvernance mondiale est de ce point de vue positive, puisque elle les canalise dans la recherche d'un intérêt commun. Dans une certaine mesure, leur promotion vient compenser l'affaiblissement des organisations internationales classiques, des institutions publiques, affaiblissement auquel bien peu échappe, sauf peut-être le Conseil de sécurité sur le plan universel. Mais force est de constater que cette gouvernance mondiale ou globale est balbutiante, si elle n'est pas un mythe consolant, celui de la démocratisation des relations internationales face à la désorganisation actuelle et au manque de repères de la société interétatique. En réalité, les éléments actuels de la gouvernance font la part belle, d'un côté, à l'inégalité politique entre États, puisqu'il s'agit d'une gouvernance aristocratique, de l'autre, aux intérêts privés, plus qu'à l'intérêt général. Deuxième tribulation de la souveraineté, c'est la concurrence entre systèmes juridiques étatiques. Et là, c'est une donnée relativement nouvelle qui vient affronter la souveraineté des États sur le terrain de leur législation interne. Ils en sont théoriquement maîtres absolus en fonction de l'exclusivité de leurs compétences territoriales. En pratique, cependant, dans de nombreux domaines, surtout les domaines émergents des relations internationales, il existe une lutte pour le droit qui aboutit soit à l'application extraterritoriale de certains droits internes, soit à l'imitation par les États d'une législation nationale étrangère qui leur est plus ou moins imposée. Je n'en mentionnerai que deux exemples. D'un côté, les régulations bancaires, financières, comptables, voire monétaires, domaines dans lesquels on connaît l'influence des règles d'origine américaine ou britannique, ce qui risque de déposséder, au moins en fait, nombre d'autres États de leur maîtrise. Et puis l'autre exemple, c'est celui d'Internet, qui est largement dépendant, comme on le sait, de la loi américaine, soit qu'elle s'impose, soit qu'elle s'exporte. Alors on sait bien que la solution serait d'adopter une régulation internationale que l'on évoque régulièrement. Mais précisément, les États dominants, dans chacun des secteurs concernés, ne veulent pas de ce type de régulation. Ici, ce n'est pas tellement la distinction espace public-espace privé qui est en cause, mais bien plutôt celle entre droit international d'un côté et droits internes de l'autre, puisque une loi interne particulière tend à devenir la loi commune. Et au fond, il y a aux États-Unis, par exemple, des thèses qui considèrent que la loi américaine a vocation à être une loi universelle, et qu'au fond, on n'a pas véritablement besoin de règles internationales, puisque la loi américaine peut satisfaire à tous. Or, la distinction entre ordre international et ordres internes, c'est également une composante importante de la souveraineté étatique. Troisième élément, c'est l'idéologie des droits de l'homme. Alors, cette idéologie, elle peut s'appuyer sur d'importants développements du droit positif, notamment, mais pas seulement, en Europe, avec la Convention et la Cour européenne des droits de l'homme. Une juridiction internationale prend ainsi à la requête d'individus des décisions qui s'imposent aux ordres juridiques internes. Alors, sur le plan universel, il existe également de grandes conventions multilatérales, mais elles n'ont pas la sauvegarde de recours juridictionnels internationaux obligatoires. Donc la situation européenne est une situation particulière. Contrairement aux apparences, il n'y a là aucune atteinte à la souveraineté étatique, puisque l'autorité de la Convention et de la Cour s'enracine dans un traité auquel les États concernés sont partis, par lequel ils sont engagés. C'est donc là une conséquence de l'exercice régulier de leur souveraineté. En revanche, l'idéologie des droits de l'homme, il faut bien distinguer le droit positif des droits de l'homme et l'idéologie des droits de l'homme, comporte une remise en cause radicale de la souveraineté, parce qu'elle pose qu'en dessus d'elle, il existe un ensemble de normes intangibles, dont l'origine n'est pas précisée, mais qui relèvent du droit naturel. C'est l'esprit même du droit international qui se trouve bouleversé. Ces droits naturels, si je puis dire, ils sont supposés universels, préexistants à toute structure étatique et indépendants d'elle. Ils peuvent même être considérés comme une condition de légitimité de l'existence d'État ou de gouvernement. Mais non, en eux-mêmes, ils sont sans rattachement territorial. Ce sont des droits nomades qui se distinguent des droits vernaculaires que sont les droits du citoyen. Alors on retrouve ici les acteurs non gouvernementaux, et si je puis dire, la boucle est bouclée, puisque les organisations non gouvernementales s'estiment promoteurs, témoins et garants de ces droits, y compris à l'encontre d'États constitués. Je ne peux pas ici entrer dans une longue discussion, mais l'idéologie des droits de l'homme représente aujourd'hui certainement la contestation la plus directe, la plus radicale, la plus frontale de la souveraineté de l'État. Pour autant, si l'on considère maintenant l'état du droit qui régit la société internationale, il semble plus approprié de parler d'une ou deux transformations de la souveraineté que de son effacement. Et c'est la troisième série de remarques que je voudrais rapidement aborder, les transformations de la souveraineté. Alors ici, il faut s'entendre sur le mot, la transformation, ce n'est pas une métamorphose. Et la définition de la souveraineté comme ses attributs essentiels, la compétence de la compétence, demeure intangible, comme par exemple les immunités de l'État. Alors, il est vrai que l'emprise de l'État, c'était un peu le point de départ, et chacun en conviendra, l'emprise de l'État semble aujourd'hui en voie de réduction. Mais je crois qu'ici, il faut introduire une distinction entre les États et leur gouvernement. Ce qui est réduit, c'est le rôle des gouvernements. Et l'État est autre chose et plus que son gouvernement. Au fond, le XXe siècle a été caractérisé par une hypertrophie des gouvernements, à la fois en raison du rôle des idéologies et des pratiques totalitaires, le communisme, le fascisme, le nazisme, et également du rôle des deux guerres mondiales, qui ont conduit les démocraties elles-mêmes à une forte concentration du pouvoir gouvernemental en vue d'une mobilisation totale des forces des pays en guerre. Aujourd'hui, pour des raisons opposées, tant idéologiques que pratiques, on est revenu à une situation inverse, on pourrait presque dire à une situation normale, avec une séparation accrue des pouvoirs politiques et économiques d'un côté, avec une séparation plus nette entre autorités publiques et sociétés civiles de l'autre. Il est possible d'ailleurs qu'on ait été un peu trop loin dans cette voie et qu'un rééquilibrage soit nécessaire ou qu'on n'ait pas trouvé encore l'équilibre optimal. Je crois qu'il convient de rappeler cette distinction importante entre l'État et le gouvernement et de dire que l'État ne peut pas se confondre avec le gouvernement qui n'en est qu'une partie. La souveraineté, c'est l'apanage de l'État dans son ensemble et pas seulement du gouvernement. Et sur ce plan, je crois qu'on peut relever trois types de transformations en des sens différents. Le premier de ces types, ce sont les migrations de la souveraineté, et je vais m'expliquer sur ce terme. Le deuxième, c'est la protection de la souveraineté, qui conduit plutôt à sa garantie, qui va plutôt à l'inverse de son effacement. Et puis, le troisième, c'est l'ambiguïté croissante entre deux conceptions de la souveraineté par rapport au droit. Mais quelques mots d'abord sur les migrations de la souveraineté. Ces migrations, elles ont caractérisé le XXe siècle et elles se prolongent en ce début du XXIe siècle. Ces migrations, c'est la multiplication, la prolifération des États, dont le nombre a quadruplé en quelques décennies. C'est une preuve de l'attraction de la forme étatique et absolument pas du dépassement ou de l'effacement de la souveraineté. La forme étatique demeure la seule forme d'organisation politique légitime. Le fait que tout groupe qui veuille affirmer sa propre identité et qui veut se gouverner suivant ses propres lois, aspire au statut d'État et d'État souverain, montre que la souveraineté n'est pas du tout effacée. On n'a pas inventé, même si on l'a cherché, on n'a pas inventé d'autres modes d'organisation des sociétés que l'État souverain. Même l'Union européenne, dont le projet repose sur une forme de dépassement des États vers un objet juridique et politique encore non identifié, même l'Union européenne se compose d'États souverains et se développe avec des traités internationaux classiques, des traités interétatiques classiques. Dans les autres régions, c'est la forme étatique qui continue à s'imposer et qui est devenue universelle. Et on doit constater, observation de fait aussi bien que de droit, que dans les circonstances actuelles, en dehors de l'État, il n'est que chaos. Alors si on revient à la prolifération des États souverains, elle n'a pu prospérer qu'en fonction du démembrement d'États antérieurement constitués, par un processus de fragmentation qui s'est beaucoup développé au cours du dernier demi-siècle, qui n'est sans doute pas totalement achevé, comme on le voit aujourd'hui en Afrique. Mais cette fragmentation, elle n'a pas effacé la souveraineté des États. elle a au contraire conduit à l'apparition d'États nouveaux. La souveraineté de l'État prédécesseur est remplacée par la souveraineté de l'État successeur. C'est là que apparaît la migration de la souveraineté qui se conserve tout en se transformant. Au fond, on pourrait dire que la souveraineté ne meurt jamais, à l'instar des rois de France. La souveraineté est morte, vive la souveraineté. Et lorsque ces nouveaux États sont à leur tour confrontés à des difficultés que l'on peut résumer par la formule commode d'État défaillant, quelle que soit l'origine de cette défaillance, tout l'effort des autres États et des institutions internationales consiste à les reconstruire, à s'efforcer de les stabiliser, à renforcer, si possible, leur souveraineté. Mieux, on peut même évoquer l'apparition d'une sorte de souveraineté latente, au profit d'entités qui n'en disposent pas encore, qui ne maîtrisent pas leur exercice, ou qui l'ont provisoirement perdu. Il y a là des situations historiquement variées, qui correspondent à deux types de latence, soit que l'exercice de la souveraineté soit entravé, soit que la souveraineté ne soit pas encore née et actuelle. Dans le premier cas, l'exercice entravé de la souveraineté, eh bien, je mentionnerai la forme aujourd'hui révolue des protectorats, où on admettait que les États sous protectorat avaient une personnalité internationale et le statut d'État, mais ne pouvaient pas exercer leur souveraineté. Et on pourrait ajouter à cette formule ancienne celle de l'Ukraine et de la Biélorussie dans le cadre de l'Union soviétique, puisque, à certains égards, le statut d'État souverain leur était reconnu. Ou encore forme actuelle, c'est celle des régimes d'occupation. Dans occupation durant laquelle l'État occupé n'exerce plus sa souveraineté, mais en conserve le principe. Tel a été le cas de l'Allemagne après 1945, tel a été le cas de l'Irak après 2003. Et ce type de situation est évidemment transitoire. La souveraineté latente est appelée à se manifester assez rapidement à nouveau. Dans le second cas, la souveraineté qui n'est pas encore née et actuelle, mais qui existe virtuellement et produit déjà certains effets. Eh bien, il s'agit d'entités dont le droit à se former en État est reconnu, mais n'est pas encore actualisé. Cela était le cas lors du processus de décolonisation, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies reconnaissait des mouvements de libération comme représentants légitimes d'un peuple qui avait le droit de se constituer en État et qui, à partir de là, détenait déjà certains droits par rapport aux institutions internationales. On peut dire que plus récemment, ça a été la situation du Kosovo, et cela reste la situation de la Palestine, dont chacun reconnaît la vocation à la personnalité étatique, sans que celle-ci soit encore entièrement constituée. Alors ça nous conduit, l'idée de souveraineté latente nous conduit à une deuxième remarque, qui est la protection de la souveraineté. Protection de la souveraineté qui va, elle, directement à l'encontre de l'idée d'effacement. Et on doit constater qu'aujourd'hui, la souveraineté de l'État est beaucoup mieux protégée, en vertu de la Charte des Nations Unies, qu'auparavant. Aujourd'hui, l'annexion d'un État ou d'une partie d'un État à la suite d'une guerre est impossible, est interdite. L'emploi de la force armée contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État est prohibé. Et on se souvient, par exemple, de la réaction internationale contre l'annexion du Koweït par l'Irak en 1990. Autrement dit, il ne serait plus possible aujourd'hui de partager la Pologne comme le permettait le droit international du XIXe siècle. L'époque n'est plus celle de Bismarck. Elle n'est plus non plus celle de Catherine II ou celle de Frédéric II, mais elle n'est plus non plus celle de Bismarck. Alors cela n'empêche pas l'effondrement d'États constitués. Et on l'a bien mesuré en Europe et ailleurs depuis deux décennies. Mais il ne s'agit pas d'une décomposition imposée de l'extérieur. Au contraire, il s'agit d'une défaillance interne, d'une implosion qui, en définitive, aboutit à la migration de souveraineté dont on a parlé. J'ajoute enfin à cette protection un élément technique qui est celui du dualisme entre l'ordre juridique international et les ordres juridiques internes. Et je reviens sur l'idée parfois répandue que les décisions des organes internationaux, notamment de certaines juridictions, seraient supérieures au droit interne et affecteraient donc la souveraineté des États. Là encore, je vais le dire avec un peu de pédantisme ou d'arrogance, rien n'est plus faux. Le droit international ne s'applique dans les ordres internes qu'en vertu du droit interne, qu'en fonction du droit interne, conformément à ses principes et à ses procédures. En droit français, par exemple, la supériorité des traités sur les lois est prévue par la Constitution et toutes les règles internationales ne s'appliquent qu'en vertu de la Constitution. L'application directe des traités aux individus est aussi tributaire de critères posés par le droit interne. Alors reste un dernier point qui pourra servir de conclusion et qui, je ne dis pas, laissera la question ouverte, mais ouvrira peut-être des options. Ce sont les ambiguïtés de la souveraineté. Ambiguïtés qui ont toujours existé, mais qui sont peut-être plus marquées aujourd'hui qu'auparavant. Et si on veut les personnaliser, on dirait qu'on peut lire le droit international suivant Kelsen ou lire le droit international suivant Carl Schmitt. Kelsen, Carl Schmitt ayant été deux théoriciens dominants du droit international au XXe siècle. Pour Kelsen, le mot même de souveraineté devrait être écarté, parce que l'État, au fond, c'est un ensemble de normes intégrées dans une hiérarchie normative au sommet de laquelle se trouve le droit international. Autrement dit, l'État ne peut agir de façon régulière que si une règle internationale positive l'habilite à le faire. Pour Carl Schmitt, à l'inverse, la souveraineté, c'est un pouvoir initial, inconditionné, de sorte que l'État se fournit à lui-même son propre titre. Il se fournit le titre qui l'autorise à agir. Et le droit international ne contient que des règles négatives qui limitent sa capacité d'action sur la base de son consentement, dans la mesure où il y a préalablement consenti. Alors on voit la différence concrète. Ou un État doit se fonder sur une règle positive, ou il se fonde sur l'absence de règles prohibitives. Schématiquement, le droit international positif penche plutôt du côté de Carl Schmitt, avec parfois des hésitations que traduisent, par exemple, certaines décisions de la Cour internationale de justice. Mais si on tente ici de résumer la pratique contemporaine, on pourrait dire que d'une part, la souveraineté n'est arrêtée que par elle-même, mais que d'autre part, le nombre de règles prohibitives s'est considérablement accru au cours des décennies récentes en fonction des progrès du droit international. Il en est ainsi, par exemple, en matière de recours à la force armée. Et au-delà encore, l'Union européenne offre un exemple complet de maintien de la souveraineté sans la guerre. Parce qu'on nous dit souvent, la souveraineté, c'est la guerre. S'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de souveraineté. Pas du tout. L'Union européenne offre un parfait exemple de maintien de la souveraineté sans la guerre. Et de façon générale, le correctif de la souveraineté, ce n'est ni la domination, ni le dépassement, mais l'interdépendance qui conduit à coordonner les compétences étatiques ou à les exercer en commun. Enfin, et je vais en terminer par là, Madame le Président, regrettant d'avoir peut-être un petit peu dépassé, la promotion du droit humanitaire illustre cette donnée que la souveraineté est en elle-même une source d'obligation, pas simplement une source d'avantage. Un État ne peut pas tout se permettre au nom de sa souveraineté et notamment contre sa propre population. Le droit français l'illustre pour le registre interne, mais au fond, c'est la même chose sur le plan international. Et je me réfère ici à une décision du Conseil constitutionnel du 22 mai 1985 qui précise que la souveraineté comporte, et je cite, « le devoir pour l'État d'assurer le respect des institutions de la République, la continuité de la vie de la nation et des droits et libertés des citoyens ». On voit bien que c'est une traduction, au fond, de la responsabilité de protéger qui est proclamée par les développements récents du droit international. Ce qui est un développement plus qu'une mutation, parce que la souveraineté a toujours comporté des obligations internationales en elle-même, ce qu'exprime, par exemple, la responsabilité internationale. Au fond, les États souverains sont les aristocrates de la société internationale, et noblesse oblige.
Vous venez d'entendre le juriste internationaliste Serge Sûr. Le texte de sa communication est disponible sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Toutes les communications de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bastide-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel » sont enregistrées par Canal Académie, disponibles à l'écoute et au téléchargement en libre accès permanent.